On sait d'abord que ces relations sont notoirement mauvaises depuis maintenant 1998, et officiellement, puisqu'il y a eu la guerre à ce moment-là, et que l'accord d'Alger de décembre 2000 n'a pas été mis en œuvre complètement, ce qui fait que l'Érythrée reste une nation sur le pied de guerre, que l'Éthiopie également a des troupes sur la frontière, et que les incidents de frontière sont plus ou moins importants, mais relativement nombreux. D'un point de vue politique, ça traduit surtout le fait que ce problème dure et n'a pas de solution.
C'est donc un problème de démarcation de frontières qui est à l'origine de ces tensions.
L'accord d'Alger prévoyait un règlement, une démarcation de la frontière. Celle-ci, enfin, la démarcation a été proposée par le comité international qui a été créé à ce propos. L'Éthiopie a refusé de mettre en œuvre cette démarcation, estimant qu'il fallait de nouvelles négociations avec l'Érythrée, ce à quoi évidemment l'Érythrée s'est refusée, disant que l'accord d'Alger était sous la garantie internationale, que l'Éthiopie l'avait promis et qu'à partir de ce moment-là, l'Éthiopie devait simplement obéir.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets en particulier qui opposent encore aujourd'hui fortement ces deux pays ?
Je crois qu'il faut regarder les problèmes internes des deux pays qui sont réels, de nature très différente, et à terme, évidemment, penser que cet incident de frontière peut être analysé suivant plusieurs prismes. Le fait que l'Érythrée est à bout de souffle et peut-être essayer d'utiliser un incident militaire pour relancer des négociations. Le fait qu'en Éthiopie même, les relations entre le Premier ministre et l'armée sont, disons, difficiles. Mais l'ampleur des contradictions est difficilement mesurable puisque l'Éthiopie n'est pas un pays très transparent d'un point de vue d'analyse politique. Et enfin, on peut aussi imaginer simplement un accident entre des troupes qui se regardent, qui se font face, ou tout d'un coup un incident ou une décision d'un officier peut précipiter un affrontement d'une beaucoup plus grande ampleur.
L'accusation entre ces deux voisins ennemis n'est pas du tout nouvelle. Est-ce que les motivations ont changé depuis les années 90 ?
On reste quand même avec l'idée que l'Éthiopie serait contente de voir l'Érythrée sans Isaias Afewerki, son président. Et de la même façon, on sent les Érythréens désireux d'humilier le régime éthiopien dans la mesure où ce serait la meilleure des justifications vis-à-vis d'une population qui souffre énormément du fait que l'Érythrée est une société complètement militarisée où toute l'énergie qui devrait aller vers le développement est simplement concentrée sur l'accumulation de moyens militaires.
Alors justement, c'est pas sans conséquence ces tensions sur les populations civiles, notamment en Érythrée.
Oui, en Éthiopie aussi, on en parle moins parce que l'Éthiopie est un pays beaucoup plus grand et le régime a un allié de l'Occident, mais dans les deux cas, pas de la même façon. Les populations souffrent. L'Éthiopie est un pays très autoritaire où il est de bon ton d'être d'accord avec le gouvernement parce que sinon les analystes étrangers n'y sont plus bienvenus. Et l'Érythrée, c'est effectivement souvent appelé la Corée du Nord de l'Afrique avec de très bonnes raisons.
Et sur les pays voisins, sur la stabilité régionale, ces conflits ont aussi un impact ?
Moins aujourd'hui qu'il y a quelques années, dans la mesure où les ingérences érythréennes en Somalie sont moindres, mais l'Éthiopie reste de toute façon et se conçoit toujours comme la grande puissance de la région. On ne peut pas dire qu'elle réussisse beaucoup à stabiliser ni la Somalie ni le Sud-Soudan, mais disons que les responsabilités érythréennes dans cet échec sont aujourd'hui moindres comparées à ce qu'elles étaient à la fin des années 2000.
Et que dire de la communauté internationale ? Elle s'est mobilisée depuis le début du conflit. Quelle est sa marge de manœuvre aujourd'hui sur cette situation ?
La communauté internationale joue un jeu qu'on comprend. Hein. Elle a un allié, c'est l'Éthiopie. Elle a un État qu'elle considère comme un État potentiellement hostile, qui est l'Érythrée. Mais c'est une situation qui est compliquée à cause de la guerre au Yémen. Et également compliqué parce que la nature autoritaire du régime éthiopien, si vous voulez, a affaibli d'une certaine façon la crédibilité du soutien politique occidental. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'Occident a choisi, notamment en promettant l'application intégrale de l'accord d'Alger et en ne le faisant pas respecter à partir de 2003.
Finalement, ces deux voisins ennemis ont un lourd passé d'affrontement. Est-ce qu'une nouvelle guerre est possible dans ce contexte ?
S'il y a une nouvelle guerre, l'Érythrée sera battue assez rapidement, je pense. La question, évidemment, qu'il faut poser, c'est est-ce que la situation sera plus gérable sans le régime érythréen actuel ou moins gérable ? Et je crois que C'est là où il y a des divergences de vues. Je pense que du côté occidental, on pense que le régime actuel est certes désastreux, mais que le fait que l'Érythrée bascule dans une situation, disons, sans régime, avec des logiques centrifuges, n'aiderait ni à la stabilisation de l'Érythrée, pourrait avoir des effets très négatifs, et sur l'est du Soudan, et évidemment sur le nord de l'Éthiopie, le Tigré, à la région du Tigray, dont sont originaires l'essentiel des membres de l'appareil sécuritaire éthiopien.